Pardonnez d'avance mes hésitations, parce que j'ai peur. Voilà. La dernière fois, donc, on avait commencé cette espèce de, sur la peinture. Et j'avais essayé de dégager quelque chose là, qui m'a... parce que ça me frappe. Encore une fois, ce que je dis a aucune valeur, ça va de soi, aucune valeur universelle. Chaque fois, je voudrais, c'est à vous de voir si tel autre peintre auquel j'ai pas pensé, si quelque chose convient ou pas. Mais enfin, moi, ce qui m'avait frappé, c'était chez un certain nombre de peintres, la présence sur la toile d'une véritable catastrophe. Et ma question, c'était, bon, eh ben, qu'est-ce que c'est ce rapport de, non pas de la peinture avec la catastrophe, mais ce rapport plus profond d'une catastrophe et de l'acte de peindre. Comme si le peintre devait passer par cette catastrophe. Dès lors, j'avais essayé, et c'était tout ce qu'on avait fait la dernière fois, j'avais essayé de voir s'il y avait là ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas d'un mot très vague, un premier, pas premier absolu, mais pour nous, un premier concept proprement de peinture, une espèce de concept pictural. Et à l'aide de textes de peintres, on avait formé une espèce de concept, un premier concept de catastrophe germe. Catastrophe germe ou chaos germe. Comme si le tableau comportait cette catastrophe germe dont quelque chose allait sortir. Et chez un certain nombre de peintres, cette catastrophe germe est visible. Alors ça pose évidemment un problème. Chez ceux où elle n'est pas visible, est-ce qu'on peut dire qu'elle est quand même là, mais virtuelle ou invisible? Ça, c'est des choses que j'oserais pas aborder. Il faut être plus solide pour même poser cette question sans qu'elle soit toute verbale ou toute littéraire. Mais enfin, chez certains peintres, elle est évidente. Et certains peintres nous parlent de cette catastrophe par laquelle ils passent, non pas personnellement, encore une fois, encore que ça puisse avoir beaucoup de conséquences personnelles sur leur propre équilibre. Mais il ne s'agit pas de dire qu'ils y passent personnellement, parce que c'est très secondaire. Ce qui y passe, c'est la peinture, c'est leur peinture. Bon. Et le texte presque le plus frappant, c'était celui de Paul Klee, quand il parle de ces deux moments, le point gris comme chaos, et ce point gris qui saute par-dessus lui-même pour se déployer comme germe de l'espace, il saute par-dessus lui-même, et j'essayais au moins de comprendre ou d'interpréter comme s'il s'agissait de deux gris, ces deux états du gris, le gris noir-blanc, il saute par-dessus lui-même, il devient le gris vert-rouge, c'est-à-dire la matrice de la couleur. Bon. Est-ce que ce chaos germe dès lors? C'est ce par quoi le tableau doit passer pour que quoi? Pour que la lumière naisse. Ou, là on voit toutes sortes de réponses possibles, ou pour que la couleur naisse. D'où le titre admirable à des liasses de Turner, naissance de la couleur, commencement de la couleur. Et ce thème qui parcourt alors tous les peintres, que finalement, la peinture, le peintre se met comme dans la situation d'une création du monde, d'un commencement du monde. Qu'est-ce que ça voudrait dire, sinon précisément il passe par ce chaos catastrophe, il l'instaure sur la toile pour qu'en sorte quelque chose qui est quoi? qui n'est évidemment plus le monde des objets, qui ne peut plus être en aucun cas le monde des objets, mais qui est le monde de la lumière couleur. Or, vous comprenez que, et c'est là j'insistais, il n'y a pas eu une formule générale du chaos catastrophe, du chaos germe ou de la catastrophe germe. C'est évident que le chaos germe de Van Gogh, ben, il est complètement différent, même là je prends à des époques proches, il est complètement différent du chaos germe de Cézanne. En plus, il est complètement différent aussi du chaos germe de Gauguin, tout ça, c'est... Et à plus forte raison du chaos germe de Klee. C'est donc des chaos germes très très singularisés, où va déjà se jouer ce qu'on appellera le style du peintre. Et ce qui va en sortir sera aussi très différent. Les peintres de lumière, je crois que, bien que les peintres de lumière puissent être de grands coloristes, je crois que les peintres de lumière, hein, qui atteignent la couleur à travers la lumière, et les peintres de couleur qui atteignent eux, les peintres de lumière qui atteignent la couleur par la lumière, et les peintres de couleur, les coloristes qui atteignent à la lumière par la couleur, sinon, ben, vous voyez, c'est des techniques absolument différentes, ça va de soi. Donc quand je parle d'un chaos germe, je ne veux pas dire du tout quelque chose d'indifférencié, au contraire. C'est comme signer, il y a déjà là la signature du peintre. Et alors, la dernière fois, je disais juste, bon, eh ben, chaos germe, il se trouve qu'un peintre là, actuel, a un mot qui m'intrigue et qui me sert beaucoup, donc que je reprends, c'est Bacon, lorsque ce chaos germe, il l'appelle un diagramme. Un diagramme. Et il dit, ben oui... Dans un tableau, il y a un diagramme. Et c'était la citation que je vous avais lue, même dans un portrait. Et bien, dans un portrait, et qu'est-ce que c'est le diagramme? Il nous dit le diagramme, et là, je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'il emploie. Un diagramme, c'est une possibilité de fait. C'est une possibilité de fait, et ce qui m'intéressait, alors, ça me donne presque le... L'idée, finalement, de ce qu'on fait, là, en parlant de la peinture, s'il s'agissait de faire une espèce de logique de la peinture, ce qui consiste pas du tout à ramener la peinture à de la logique, mais considérer qu'il y a une logique propre de la peinture. Eh bien, ce mot « diagramme » me servirait d'autant plus que, précisément, il est tellement employé, je vous disais, par certains logiciens anglais ou américains, actuellement. Les théories du diagramme, elles sont partout, et ce que j'aimerais entre autres faire, là pour rejoindre des considérations plus logiques ou plus philosophiques, ce serait essayer de voir si la peinture ne veut pas nous fournir les éléments, des éléments en tout cas, pour une théorie du diagramme. Mais enfin, voyez pour le moment, car ce diagramme ou ce chaos germe, j'ai essayé de le situer dans le temps de l'acte de peintre. Et je dis, oui, très simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire ceci, quitte à le corriger plus tard? Eh bien, c'est comme le deuxième moment dans les trois moments de l'acte de peintre. C'est en sens que je disais, vous savez, dans un tableau, il y a toujours implicite une synthèse du temps. Et qu'est-ce que c'est que ces trois moments? Eh bien, je disais, le tableau, il est en communication immédiate avec un avant-peintre. Bon. Le tableau, il ne peut pas être pensé avant un avant-peintre. C'est-à-dire, le tableau, il a fondamentalement une dimension pré-picturale. Et j'invoque pour moi là ce long texte de Cézanne, où Cézanne parle de tout ce qui se passe avant qu'il ne commence à peindre. C'est bien cette dimension pré-picturale qui appartient déjà à la peinture. Or, c'est en fonction de cette dimension pré-picturale que le diagramme s'affirme comme un second temps. D'où une question qui nous reste, qu'est-ce qu'il va faire quant à ce second temps ?
Qu'est-ce qu'il va faire, pardon, quant au premier temps? S'il y a bien, visible ou non visible dans le tableau, une appartenance et une dimension préficturale, en quoi consiste-t-elle cette dimension? On ne sait pas encore. Tout ce que je peux dire, c'est que la nécessité ou que le chaos germe, c'est-à-dire le diagramme, trouvera sa nécessité dans une certaine fonction qu'il exerce par rapport à cette première dimension prépicturale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir comme une espèce de zone à la lettre de brouillage. De brouillage, de nettoyage. Pour permettre sans doute quoi? Pour permettre sans doute l'avènement de la peinture. Il va falloir nettoyer, brouiller. Bon, supposons que... pour que le troisième temps sorte. Voyez donc, j'ai mon espèce de dimension là, temporelle, de l'acte de peindre, la dimension prépicturale, le diagramme qui va agir, on ne sait pas encore de quelle manière, sur cette dimension, de telle manière que sorte du diagramme, quoi? Reprenons les mots de Bacon. Le diagramme, ce n'est pas encore le fait pictural. Ah bon, alors il y aurait un fait pictural. Bon. Peut-être qu'il y a un fait pictural. Pourquoi est-ce que les critiques, quand on parle peinture, il y a toujours un mot qui revient chez tout le monde, chez beaucoup de gens. Hein. Le thème de la présence. Présence. Présence, présence. C'est le mot le plus simple pour qualifier l'effet de la peinture sur nous. Et là, vous remarquez, je ne fais aucune distinction pour le moment, il n'y a aucun lieu d'en faire, que ce soit un carré de Mondrian ou une figure de la peinture très classique. Pas lieu, il y a une espèce de présence. Présence, ça sert à quoi quand les critiques emploient ce mot? Ça sert à nous dire, ben, évidemment, ce qu'on sait bien grâce à eux ou grâce à nous-mêmes, ce n'est pas de la représentation. Présence, c'est... bon, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas très bien. On sait avant tout que ça se distingue de la représentation. Le peintre l'a fait surgir une présence. À savoir, un portraitiste, ben, il ne représente pas. Il ne représente pas... il ne représente pas le roi, il ne représente pas... la reine, il ne représente pas la petite princesse, hein. Il fait surgir une présence. Bon, d'accord, alors c'est un mot commode. C'est une autre manière de dire qu'il y a un fait pictural. D'où sort le fait? Là, après tout, tous les vocabulaires nous sont bons, du coup, mes trois moments. Le moment prépictural qui, d'une certaine manière, encore une fois, j'insiste, appartient au tableau. Puis le diagramme, puis le fait pictural qui sort du diagramme. Bon, on tient ça comme un point. Encore une fois, c'est une hypothèse parce qu'il y aura lieu de le remanier, tout ça. Parlons latin parce que c'est, je pense, à un texte. De Kant dans un tout autre domaine où il sert d'une terminologie latine en distinguant, c'est bien d'ailleurs, c'est une belle page, où il distingue le datum et le factum. Le datum et le factum, c'est-à-dire, en français c'est moins joli, le donné et le fait. Il dit, vous savez, le fait, c'est quelque chose de tout à fait différent du donné. Bon. Je dirais que mon premier temps, la dimension prépicturale, c'est le monde des données. C'est le monde des données. Qu'est-ce qui est donné? Qu'est-ce qui est donné? Alors ma question devient plus précise, elle va nous aider. Qu'est-ce qui est donné sur la toile avant que la peinture ne commence? Bon. J'insiste là-dessus parce que
Il y a une espèce de lieu commun assez récent qui est une catastrophe, il me semble. C'est une catastrophe parce que c'est une telle déformation du vrai problème, soit d'écrire, soit de peindre, que ça rend tout puéril. Je crois que c'est un thème que, généralement, ceux qui le soutiennent se réclament de Blanchot, mais c'est simplement un contresens sur Blanchot, qui, lui, n'a jamais dit de bêtises, alors que le thème qu'on en tire, lui, est d'une bêtise incroyable. Ce thème qui est ruiné en littérature, c'est le thème selon lequel l'écrivain se trouve devant une page blanche. C'est bête, mais c'est bête à pleurer. Et que, dès lors, le problème de l'écriture, c'est « Mon Dieu, comment je vais remplir la page blanche ?» Alors, il y a des gens qui font des livres là-dessus, sur le vertige de la page blanche. Bon, mais on voit vraiment pas pourquoi quelqu'un voudrait remplir une page blanche. Une page blanche, ça manque de rien. Je veux dire, je vois peu de thèmes aussi stupides. Alors, ils passent tous les lieux communs, vraiment, à l'angoisse de la page blanche. Ah, on peut y mettre même un peu de psychanalyse là-dedans, la page blanche. Et on fait parfois des romans allant jusqu'à 80 pages, 120, 140, sur ce rapport de l'écrivain avec la page blanche. Je dis, c'est une stupidité insondable, puisque... Si quelqu'un se met devant une page blanche, il risque pas de la remplir. C'est forcé. Et bien plus, ça s'accompagne d'une telle conception de l'écriture et tellement stupide que, vous comprenez, c'est juste le contraire. Quand on a quelque chose à écrire, ou quand on estime, là je dis pas du tout, je fais pas une distinction entre les vrais et les faux écrivains, c'est les plus général, mais si vous avez quelque chose à écrire, faut pas croire que vous vous trouvez, c'est le tiers, celui qui regarde sur votre épaule, qui dit, oh, il a rien écrit encore, d'accord, j'ai rien écrit encore. Mais quelle différence entre ma pauvre tête, mon cerveau agité et la page? Aucune, à mon avis, aucune. À savoir, il y a déjà plein de choses, je dirais plus, il y a beaucoup trop de choses sur la page. Voilà. Il n'y a pas de page blanche. Il y a une page blanche objectivement, c'est-à-dire d'une fausse objectivité, pour le tiers qui regarde. Sinon, votre page à vous, mais elle est encombrée, elle est complètement encombrée. Et c'est bien ça, arriver à écrire. C'est que la page est tellement encombrée qu'il n'y a même plus de place pour y ajouter quoi que ce soit. Si bien que écrire, ce sera fondamentalement gommer, ce sera fondamentalement supprimer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur la page avant que je commence à écrire? Je dirais, il y a le monde infini, pardonnez-moi, il y a le monde infini de la connerie. Il y a ce monde infini, c'est-à-dire, en quoi écrire est-il une épreuve? C'est que vous n'écrivez pas comme ça avec rien dans la tête. Vous avez beaucoup de choses dans la tête, mais dans la tête, d'une certaine manière, tout se vaut. À savoir, s'il y a de bon dans une idée, et s'il y a de facile et de tout fait, c'est sur le même plan. C'est seulement quand vous passez à l'acte, par l'activité d'écrire, que c'est cette bizarre sélection où vous devenez apte. Je dirais la même chose pour parler. Quand vous avez dans la tête quelque chose avant que vous parliez, mais il y a plein de trucs qui tous vaut. D'une certaine manière, non, tous vaut pas, mais vous avez beau mettre au point dans votre tête, il y a l'épreuve de passer à l'acte, soit en parlant, soit en écrivant, qui est une fantastique élimination, qui est une fantastique épuration. Sinon, votre page, elle est pleine. Elle est pleine de quoi? Je dirais d'idées toutes faites. Et vous aurez beau les trouver originales. Idées toutes faites, ça ne veut pas dire forcément des idées que les autres ont aussi. Vous pouvez très bien avoir des idées toutes faites à vous, et rien qu'à vous,
elles sont quand même toutes faites. C'est des idées toutes faites. Facile, facile, quoi. Des idées comme on a 18 ans et dont on a honte quand on se réveille, quoi. Non, trop facile tout ça, pas sérieux, quoi. Vous comprenez, le monde des idées, encore une fois, il n'a jamais été justiciable du vrai et du faux. Il est justiciable de catégories beaucoup plus fines. L'important et l'essentiel et l'inessentiel, le remarquable et l'ordinaire, etc. Tant que c'est dans votre tête, bon, ben, vous pouvez prendre des choses très ordinaires pour des choses remarquables. Or, c'est pas innocent, ça, ce genre de confusion. Quand vous prenez quelque chose d'ordinaire pour du remarquable, ça affecte le contenu de l'idée. Pas simplement des trucs formels. Alors, c'est pour ça que vous avez tout le temps des livres dont vous vous dites, je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais enfin, non, ça ne va pas, c'est enfantin, tout ça. C'est pas, et on aurait de la peine à dire en quoi c'est faux. Non, ce n'est pas faux. C'est rien. C'est rien, alors que le type, il a l'air de trouver que ses idées, elles sont formidables. Il y a quelque chose en vous, et là, c'est pas le lieu d'une discussion. C'est pour ça que les discussions, c'est toujours de la merde, vous savez. C'est pas le lieu d'une discussion du tout. Moi, je peux pas dire à quelqu'un, voilà pourquoi ton idée n'est pas fameuse. C'est impossible à dire. Bon, simplement, c'est ça qu'on a dans la tête. Le monde des idées toutes faites, soit idée collective, soit idée même personnelle. Une idée personnelle, c'est pas une bonne idée pour ça, hein. Il y a des idées toutes faites qui sont pourtant rien qu'à moi, qui sont faciles. Alors, à la rigueur, je peux les dire dans la conversation, mais si ça passe par l'épreuve d'écrire, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'écrire ça? Bon. Si on se demande beaucoup ça, je ne dis pas qu'on réussit, on se trompe comme tout le monde, mais déjà, on se trompe moins souvent, hein. Il faut avoir des questions d'urgence présentes à l'être. J'en viens à la peinture. Que c'est ça qu'il y a. C'est aussi bête de croire que la toile est une surface blanche. Pas plus que le papier. Une toile, c'est pas une surface blanche. Et je crois que les peintres le savent bien. Les peintres le savent bien. Avant qu'ils ne commencent, la toile, elle est déjà remplie. Elle est remplie de quoi, la toile, avant qu'il ne commence? Là encore, c'est pour l'œil du type qui se promène, qui voit, alors il voit un peintre, il regarde, il dit, oh ben tu n'as pas fait beaucoup, là, il n'y a rien. Mais pour le peintre, s'il a de la peine à commencer, c'est justement parce que sa toile est pleine. Elle est pleine de quoi? Elle est pleine du pire. Et ça, vous comprenez, sinon peindre, ce ne serait pas un travail. Elle est pleine du pire. Le problème, ça va être doter. Doter ces choses, vraiment, ces choses invisibles pourtant, et qui ont déjà pris la toile. C'est-à-dire, le mal est déjà là. Qu'est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce que c'est les idées toutes faites de la peinture? Les peintres ont toujours employé un mot pour désigner, enfin non, pas toujours, mais il y a un mot qui s'est imposé pour désigner ce dont la toile est pleine avant que le peintre ne commence, c'est cliché. Un cliché, des clichés. La toile, elle est déjà remplie de clichés. Si bien que dans l'acte de peindre, il y aura comme dans l'acte d'écrire, ce qui doit être présenté, bien que ce soit très insuffisant, une série de soustractions, de gommages. La nécessité de nettoyer la toile. Alors, est-ce que ce serait ça le rôle, au moins un rôle, le rôle négatif du diagramme, la nécessité de nettoyer la toile pour empêcher les clichés de prendre? Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans les clichés? Ben on peut dire, et alors en effet, on se dit, ben après tout, actuellement, les peintres, c'est plutôt pire qu'avant, si on devait dire quelque chose. Quand C'est vrai, d'une certaine manière, là je ne veux pas recommencer ces analyses, par exemple, des auteurs comme Klossowski les ont trop bien faites, sur l'existence vraiment d'un monde de simulacres. Quoique Klossowski prenne simulacre en un sens très savant, il comporte aussi cet aspect, le cliché, le truc tout fait. On vit, on nous dit souvent, on vit dans un monde de simulacres, on vit dans un monde de clichés. Sans doute est-ce qu'il faut mettre en cause quoi, les progrès, certains progrès techniques hein, dans le domaine des images, l'image photo, l'image ciné, l'image télé, etc. Ce monde d'images, quoi. Mais ça n'existe pas simplement sur les écrans, ça existe dans nos têtes, ça existe dans les pièces, ça existe dans une pièce. C'est vraiment lucrétien, vous savez, quand Lucrèce parle des simulacres qui se promènent là, à travers le monde, qui traversent des espaces pour venir d'un endroit à frapper notre tête, frapper notre cerveau, tout ça. On vit dans un monde de clichés, là, il y a des affiches, il y a tout ça. Bon, tout ça, à la limite, c'est sur la toile, avant que le peintre ne commence. Et ce qu'il y a de catastrophique, c'est que dès qu'un peintre a trouvé un truc, bon, ça devient un cliché. Bon, et à toute vitesse, aujourd'hui, hein. Il y a une production, reproduction à l'infini du cliché, qui fait que la consommation est extrêmement rapide. Eh bien, lutte contre le cliché. C'est ça le cri de guerre du peintre, je crois. Or, ce qu'il sait, le peintre, c'est qu'il y a des clichés personnels, non moins des clichés collectifs. Que le peintre, il peut avoir sa petite idée cérébrale, petite idée d'un truc nouveau. Mais toute idée cérébrale en peinture est un cliché. Et que ça peut être un cliché rien qu'à lui, c'est quand même un cliché. J'aime pas beaucoup la phrase, enfin personnellement, je trouve la phrase qu'on cite toujours de Oscar Wilde, à savoir, c'est la nature qui se met à ressembler à tel peintre. C'est pas le peintre qui copie la nature, c'est la nature qui, une fois que le peintre existe, alors en effet, par exemple, on se met à dire d'un paysage, ah tiens, ça c'est un Renoir. Moi, ça ne me paraît pas dire tellement un compliment pour le peintre. Ça montre seulement vraiment la vitesse avec laquelle un acte de peinture devient un cliché. Je me mets à dire devant une femme, ah, un vrai Van Dongen, devant un paysage, oh, ça c'est un Renoir. Cliché, cliché, cliché. Peut-être que le peintre qui a fait la lutte, finalement, ces clichés, vous me direz, ils n'ont pas d'existence objective sur la toile, d'accord. Mais je dis qu'ils ont une existence virtuelle, d'une force, d'une pesanteur. Comment le peintre va-t-il échapper aux clichés, tant aux clichés qui viennent du dehors et qui s'imposent déjà sur la toile, qu'aux clichés qui viennent de lui? Ça va être une lutte avec l'ombre, puisque c'est cliché. Pas objectivement. Hein, encore une fois, on croit à la surface blanche. Et pourtant, ils sont là. En tout cas, pour le peintre, ils sont là. Celui qui a poussé, à ma connaissance, je ne sais pas, tous ont eu ce drame, hein, comment échapper au cliché. Même un cliché qui ne ferait rien qu'à eux. C'est une lutte effarante, hein. Sur les rapports de la peinture et de la photo, dont je voudrais parler plus tard, mais là, je lance quand même un thème parce qu'il vient, il me semble bien à ce niveau. Sur les rapports de la peinture et de la photo, est-ce que les peintres ont pu apprendre de la photo ou l'intérêt de la photo par rapport à la peinture? Toutes choses qui me paraissent très très douteuses, mais ça fait rien. Comprenez? Il faut distinguer, parce que même les peintres qui servent de la photo, c'est quoi les peintres qui servent de la photo, qui servent aujourd'hui de la photo? Je pense à un peintre, là je ne sais pas si vous pensez de lui, si peut-être qu'il ne souffre que peut-être d'un excès de dons, quelque chose, c'est Fromanger. fromager, dans une période, dans une de ces périodes, il se servait de photos d'une manière qui me paraît très très intéressante. Ça consistait en ceci, sa méthode à lui. On va voir si on ne va pas retrouver notre histoire du diagramme. Qu'est-ce qu'il faisait? À une période, à une époque, c'est l'époque où il s'est le plus servi de photos. Il allait dans la rue, bon, c'était sa manière de chercher le motif, lui se baladait dans la rue, avec un photographe de presse, un photographe de journal. Et il prenait des scènes de rue et notamment des boutiques, plusieurs clichés. Et voilà ce qu'il faisait, et je vous demande de voir où commence l'acte de peindre là-dedans. C'est pas lui qui prenait les photos. Il insiste beaucoup là-dessus, c'est évident, mais quand on voit une photo, esthétiquement, nulle, aucune prétention esthétique. Est-ce que la photo a le droit d'avoir des prétentions esthétiques? C'est un problème très, très intéressant, moi, il me semble, tout à fait intéressant. Mais là, c'était même pas en question. Même pas en question, puisque les photos étaient volontairement des photos de presse instantanées, il en prenait 12. Et là-dessus, 12 d'une même scène, hein, ou d'un même magasin. Fromanger choisissait dans les 12. Il en choisissait, il choisissait. Bon. Là commençait déjà l'acte de peintre. Il avait pourtant rien peint. Il y avait déjà un acte, là. Il choisissait une photo. En fonction de quoi? Voilà. Il avait une idée dans la tête. C'était quoi son idée dans la tête? Il y a bien une intention. Qu'est-ce que c'était? L'intention de peindre et de peindre quoi dans le cas de Fromanger du point de vue de cette technique-là? Eh bien, qu'est-ce que c'était son idée, sa petite idée? Il choisissait une photo parmi 12 ou parmi 10. En fonction d'une couleur qui devait être, qui devait devenir couleur dominante du tableau à faire. Oui, c'était des photos en noir et blanc. Hein. Oui, j'ai oublié de préciser, c'était des photos en noir et blanc. Bon, il choisissait une photo, comme ça il se disait, il avait donc 12 photos. Bon, il regardait la qualité technique des photos, mais au besoin il en prenait une, même pas de bonne qualité technique, parce qu'elle lui paraissait plus compatible avec la scène évoquée vaguement en lui une couleur. Mettons une scène qui évoquait en lui un violet, tel violet précis. Il disait, ah ben oui, ça, cette scène-là, je la vois en violet. Alors, il choisissait la photo qui lui paraissait le plus compatible, c'était déjà un choix de peintre, hein. Il choisissait la photo qui lui paraissait le plus compatible avec ce violet qu'il avait dans la tête, que la scène avait vaguement évoqué pour lui. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faisait? Et je peux déjà dire, l'acte de peindre commençait au niveau de ce premier choix. Là-dessus, il projetait la photo sur la toile. Bon, il projetait la photo sur la toile. Là, on voit bien. Ça me plaît bien, cette technique, parce que je ne dis pas du tout que ce soit une technique la plus... Il y a plus, il faut l'abandonner. On peut faire une série, un peintre peut faire une série comme ça. Et s'il reste là-dedans, ça devient évidemment un cliché à son tour. Il avait eu une idée. En effet, le pop art avait eu parfois des techniques apparentées à ça. Mais cette technique-là, non, c'était une petite variation. C'était une variation fromagée. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faisait à partir de là? Vous voyez, il ne peignait pas du tout sur une toile vierge, même en apparence. Là, il y avait une espèce de vérité de la peinture qui déjà apparaissait. Il y avait la projection de la photo sur sa toile. Photo de valeur esthétique nulle, et volontairement nulle. Si ça avait été une photo même à prétention artiste, il n'aurait pas pu travailler, je crois. Donc il fallait que sa toile était remplie par l'image de l'image, par la projection de la photo. Je crois que finalement,